L'enfant maudit, 3. Enfin, lorsqu'elle dut demeurer au lit, la duchesse inclina promptement vers la tombe, car alors elle fut privée de son fils, à qui son chevet était interdit par le pacte à l'observation duquel il devait la vie. La douleur de l'enfant fut égale à celle de la mère. Inspiré par le génie particulier aux sentiments comprimés, Étienne se créa le plus mystique des langages pour pouvoir s'entretenir avec sa mère. Il étudia les ressources de sa voix, comme eût fait la plus habile des cantatrices, et venait chanter d'une voix mélancolique sous les fenêtres de sa mère, quand, par un signe, Beau Vouloir lui disait qu'elle était seule. Jadis, au Maillot, il avait consolé sa mère par d'intelligents sourires. Devenu poète, il la caressait par les plus suaves mélodies. « Ces chants me font vivre !» disait la duchesse à Beau Vouloir, en aspirant l'air animé par la voix d'Étienne. Enfin arriva le moment où devait commencer un long deuil pour l'enfant maudit. Déjà plusieurs fois, il avait trouvé de mystérieuses correspondances entre ses émotions et les mouvements de l'océan. La divination des pensées de la matière, dont l'avait douée sa science occulte, rendait ce phénomène plus éloquent pour lui que pour tout autre. Pendant la fatale soirée où il allait voir sa mère pour la dernière fois, l'océan fut agité par des mouvements qui lui parurent extraordinaires. C'était un remuement d'eau qui montrait la mer travailler intestinement. Elle s'enflait par de grosses vagues qui venaient expirer avec des bruits lugubres et semblables aux hurlements des chiens en détresse. Étienne se surprit à se dire à lui-même « Que me veut-elle ? » Elle tressaille et se plaint comme une créature vivante. Ma mère m'a souvent raconté que l'océan était en proie à d'horribles convulsions pendant la nuit où je suis née. Que va-t-il m'arriver ? Cette pensée le fit rester debout à la fenêtre de sa chaumière, les yeux tantôt sur la croisée de la chambre de sa mère où tremblotait une lumière, tantôt sur l'océan qui continuait à gémir. Tout à coup, Beau Vouloir frappa doucement, ouvrit et montra sur sa figure assombrie le reflet d'un malheur. « Monseigneur, dit-il, Madame la Duchesse est dans un si triste état qu'elle veut vous voir. » Toutes les précautions sont prises pour qu'il ne vous advienne aucun mal au château. Mais il nous faut beaucoup de prudence. Nous serons obligés de passer par la chambre de Monseigneur, là où vous êtes né. » Ces paroles firent venir des larmes aux yeux d'Étienne, qui s'écria « L'océan m'a parlé !» Il se laissa machinalement conduire vers la porte de la tour, par où Bertrand était monté pendant la nuit, où la duchesse avait accouché de l'enfant maudit. L'écuyer s'y trouvait, une lanterne à la main. Étienne parvint à la grande bibliothèque du cardinal d'Hérouville, où il fut obligé de rester avec Beau Vouloir, pendant que Bertrand allait ouvrir les portes et reconnaître si l'enfant maudit pouvait passer sans danger. Le duc ne s'éveilla pas. En s'avançant à pas légers, Étienne et Beau Vouloir n'entendaient dans cet immense château que la faible plainte de la mourante. Ainsi, les circonstances qui accompagnèrent la naissance d'Étienne se retrouvaient à la mort de sa mère. Même tempête, mêmes angoisses, même peur d'éveiller le géant sans pitié, qui cette fois dormait bien. Pour éviter tout malheur, l'écuyer prit Étienne dans ses bras et traversa la chambre de son redoutable maître, décidé à lui donner quelques prétextes, tirés de l'état où se trouvait la duchesse, s'il était surpris. Étienne eut le cœur horriblement serré par la crainte qui animait ses deux fidèles serviteurs. Mais cette émotion le prépara, pour ainsi dire, au spectacle qui s'offrit à ses regards, dans cette chambre seigneuriale, où il revenait pour la première fois, depuis le jour où la malédiction paternelle l'en avait banni. Sur ce grand lit que le bonheur n'approcha jamais, il chercha sa bien-aimée et ne la trouva pas sans peine, tant elle était maigrie. Blanche comme ses dentelles, n'ayant plus qu'un dernier souffle à exhaler, elle rassembla ses forces pour prendre les mains d'Étienne et voulut lui donner toute son âme dans un long regard. Comme autrefois, Chaverny lui avait légué à elle toute sa vie dans un adieu. Beauvouloir et Bertrand, l'enfant et la mère, le duc endormi, se trouvaient encore réunis. Même lieu, même scène, mêmes acteurs. Mais c'était la douleur funèbre au lieu des joies de la maternité. La nuit de la mort au lieu du jour de la vie. En ce moment, l'ouragan annoncé depuis le coucher du soleil par les lugubres hurlements de la mer se déclara soudain. « Chère fleur de ma vie !» dit Jeanne de Saint-Savin en baisant son fils au front. « Tu fus détachée de mon sein au milieu d'une tempête, et c'est par une tempête que je me détache de toi. Entre ces deux orages, tout me fut orage, hormis les heures où je t'ai vue. Voici ma dernière joie, elle se mêle à ma dernière douleur. Adieu, mon unique amour. Adieu, belle image de deux âmes bientôt réunies. Adieu, ma seule joie, joie pure. Adieu, tout mon bien-aimé. » Laisse-moi te suivre, dit Étienne qui s'était couché sur le lit de sa mère. Ce serait un meilleur destin, dit-elle en laissant couler de larmes sur ses joues livides, car comme autrefois, son regard parut lire dans l'avenir. Personne ne l'a vu ? Demanda-t-elle à ses deux serviteurs. En ce moment, le duc se remua dans son lit. Tous tressaillirent. Il y a du mélange jusque dans ma dernière joie, dit la duchesse. Emmenez-le, emmenez-le. Ma mère, j'aime mieux te voir un moment de plus et mourir, dit le pauvre enfant en s'évanouissant sur le lit. À un signe de la duchesse, Bertrand prit Étienne dans ses bras et, le laissant voir une dernière fois à la mère, qui le baisait par un dernier regard, il se mit en devoir de l'emporter, en attendant un nouvel ordre de la mourante. « Aimez-le bien, dit-elle à l'écuyer et au rebouteur, car je ne lui vois pas d'autre protecteur que vous et le ciel. » Avertie par un instinct qui ne trompe jamais les mères, elle s'était aperçue de la pitié profonde qu'inspirait à l'écuyer l'aîné de la maison puissante à laquelle il portait un sentiment de vénération comparable à celui des Juifs pour la cité sainte. Quant à Beauvouloir, le pacte entre la duchesse et lui s'était signé depuis longtemps. Ses deux serviteurs, émus de voir leur maîtresse forcée de leur léguer ce noble enfant, promirent, par un geste sacré, d'être la providence de leur jeune maître, et la mère eut foi en ce geste. La duchesse mourut au matin, quelques heures après. Elle fut pleurée des derniers serviteurs, qui, pour tout discours, dirent sur sa tombe qu'elle était une gente femme, tombée du paradis. Étienne fut en proie à la plus intense, à la plus durable des douleurs. Douleur muette, d'ailleurs. Il ne courut plus à travers les rochers. Il ne se sentit plus la force de lire ni de chanter. Il demeura des journées entières accroupi dans le creux d'un roc, indifférent aux intempéries de l'air, immobile, attaché sur le granit, semblable à l'une des mousses qui y croissaient, pleurant bien rarement. Mais perdu dans une seule pensée, immense, infinie comme l'océan. Et comme l'océan, cette pensée prenait mille formes, devenait terrible, orageuse, calme. Ce fut plus qu'une douleur, ce fut une vie nouvelle, une irrévocable destinée faite à cette belle créature qui ne devait plus sourire. Il est des peines qui, semblables à du sang jeté dans une eau courante, teignent momentanément les flots. L'onde, en se renouvelant, restaure la pureté de sa nappe. Mais chez Étienne, la source même fut adultérée. Et chaque flot du temps lui apporta même dose de fiel. Dans ses vieux jours, Bertrand avait conservé l'intendance des écuries pour ne pas perdre l'habitude d'être une autorité dans la maison. Son logis se trouvait près de la maison où se retirait Étienne, en sorte qu'il était à portée de veiller sur lui avec la persistance d'affection et la simplicité rusée qui caractérisent les vieux soldats. Il dépouillait toute sa rudesse pour parler au pauvre enfant. Il allait doucement le prendre par les temps de pluie et l'arrachait à sa rêverie pour le ramener au logis. Il mit de l'amour-propre à remplacer la duchesse de manière à ce que le fils trouvât, sinon le même amour, du moins les mêmes attentions. Cette pitié ressemblait à de la tendresse. Étienne supporta sans plainte ni résistance les soins du serviteur. Mais trop de liens étaient brisés entre l'enfant maudit et les autres créatures pour qu'une vive affection pût renaître dans son cœur. Il se laissa machinalement protéger, car il devint une sorte de créature intermédiaire entre l'homme et la plante, ou peut-être entre l'homme et Dieu. À quoi comparer un être à qui les lois sociales, les faux sentiments du monde étaient inconnus, et qui conservait une ravissante innocence, en obéissant qu'à l'instinct de son cœur. Néanmoins, malgré sa sombre mélancolie, il sentit bientôt le besoin d'aimer, d'avoir une autre mère, une autre âme à lui. Mais séparé de la civilisation par une barrière d'airain, il était difficile qu'il rencontrât un être qui se fût fait fleur comme lui. À force de chercher un autre lui-même auquel il pût confier ses pensées et dont la vie pût devenir la sienne, il finit par sympathiser avec l'océan. La mer devint pour lui un être animé, pensant. Toujours en présence de cette immense création dont les merveilles cachées contrastent si grandement avec celles de la terre, il y découvrit la raison de plusieurs mystères. Familiarisé dès le berceau avec l'infini de ses campagnes humides, la mer et le ciel lui racontèrent d'admirables poésies. Pour lui, tout était varié dans ce large tableau si monotone en apparence. Comme tous les hommes de qui l'âme domine le corps, il avait une vue perçante et pouvait saisir à des distances énormes, avec une admirable facilité, sans fatigue, les nuances les plus fugitives de la lumière, les tremblements les plus éphémères de l'eau. Par un calme parfait, il trouvait encore des teintes multipliées à la mer qui, semblable à un visage de femme, avait alors une physionomie, des sourires, des idées, des caprices. Là, verte et sombre, ici, riant dans son azur, tantôt unissant ses lignes brillantes avec les lueurs indécises de l'horizon, tantôt se balançant d'un air doux sous des nuages orangés. Il se rencontrait pour lui des fêtes magnifiques, pompeusement célébrées au coucher du soleil, quand l'astre versait ses couleurs rouges sur les flots comme un manteau de pourpre. Pour lui, la mer était gaie, vive, spirituelle au milieu du jour, lorsqu'elle frissonnait en répétant l'éclat de la lumière par ses mille facettes éblouissantes. Elle lui révélait d'étonnantes mélancolies, elle le faisait pleurer, lorsque, résignée, calme et triste, elle réfléchissait un ciel gris chargé de nuages. Il avait saisi les langages muets de cette immense création. Le flux et reflux étaient comme une respiration mélodieuse, dont chaque soupir lui peignait un sentiment. Il en comprenait le sens intime. Nul marin, nul savant n'aurait pu prédire mieux que lui la moindre colère de l'océan, le plus léger changement de sa face. À la manière dont le flot venait mourir sur le rivage, il devinait les houles, les tempêtes, les grains, la force des marées. Quand la nuit étendait ses voiles sur le ciel, il voyait encore la mer sous les lueurs crépusculaires et conversait avec elle. Il participait à sa vie féconde. Il éprouvait en son âme une véritable tempête quand elle se courrouçait. Il respirait sa colère dans ses sifflements aigus. Il courait avec les lames énormes qui se brisaient en mille franges liquides sur les rochers. Il se sentait intrépide et terrible comme elle. Et, comme elle, bondissait par des retours prodigieux. Il gardait ses silences mornes, il imitait ses clémences soudaines. Enfin, il avait épousé la mère. Elle était sa confidente et son amie. Le matin, quand il venait sur ces rochers, en parcourant les sables fins et brillants de la grève, il reconnaissait l'esprit de l'océan par un simple regard. Il envoyait soudain les paysages et planait ainsi sur la grande face des eaux, comme un ange venu du ciel. Si de joyeuses, de lutines, de blanches vapeurs lui jetaient un réseau fin, comme un voile au front d'une fiancée, il en suivait les ondulations et les caprices avec une joie d'amant, aussi charmé de la trouver au matin coquette comme une femme qui se lève encore tout endormie, qu'un mari de revoir sa jeune épouse dans la beauté que lui a faite le plaisir. Sa pensée, mariée avec cette grande pensée divine, le consolait dans sa solitude, et les mille jets de son âme avaient peuplé son étroit désert de fantaisies sublimes. Enfin, il avait fini par deviner dans tous les mouvements de la mer sa liaison intime avec les rouages célestes, et il entrevit la nature dans son harmonieux ensemble, depuis le brin d'herbe jusqu'aux astres errants qui cherchent, comme des graines emportées par le vent, à se planter dans les terres. Pur comme un ange, vierge des idées qui dégradent les hommes, naïf comme un enfant, il vivait comme une mouette, comme une fleur, prodigue seulement des trésors d'une imagination poétique, d'une science divine de laquelle il contemplait seul la féconde étendue. Incroyable mélange de deux créations. Tantôt il s'élevait jusqu'à Dieu par la prière, tantôt il redescendait, humble et résigné, jusqu'au bonheur paisible de la brute. Pour lui, les étoiles étaient les fleurs de la nuit, le soleil était un père, les oiseaux étaient ses amis. Il plaçait partout l'âme de sa mère. Souvent il la voyait dans les nuages, et il lui parlait, et il communiquait réellement par des visions célestes. En certains jours, il entendait sa voix, il admirait son sourire. Enfin, il y avait des jours où il ne l'avait pas perdu. Dieu semblait lui avoir donné la puissance des anciens solitaires, l'avoir doué de sens intérieurs perfectionnés qui pénétraient l'esprit des choses. Des forces morales inouïes lui permettaient d'aller plus avant que les autres hommes dans les secrets des œuvres immortelles. Ses regrets et sa douleur étaient comme des liens qui l'unissaient au monde des esprits. Il y allait, armé de son amour, pour y chercher sa mère, en réalisant ainsi par les sublimes accords de l'extase la symbolique entreprise d'Orphée. Il s'élançait dans l'avenir ou dans le ciel, comme de son rocher il volait sur l'océan d'une ligne à l'autre de l'horizon. Souvent aussi, quand il était tapis au fond d'un trou profond, capricieusement arrondi dans un fragment de granit et dont l'entrée avait l'étroitesse d'un terrier, quand, doucement éclairé par les chauds rayons du soleil qui passaient par des fissures et lui montraient les jolies mousses marines par lesquelles cette retraite était décorée, véritable nid de quelque oiseau de mer, là, souvent, il était saisi d'un sommeil involontaire. Le soleil, son souverain, lui disait seul qu'il avait dormi en lui mesurant le temps pendant lequel avaient disparu pour lui ses paysages d'eau, ses sables dorés et ses coquillages. Il admirait, à travers une lumière brillante comme celle des cieux, les villes immenses dont lui parlaient ses livres. Il allait, regardant avec étonnement, mais sans envie, les cours, les rois, les batailles, les hommes, les monuments. Ce rêve en plein jour lui rendait toujours plus cher ses douces fleurs, ses nuages, son soleil, ses beaux rochers de granit. Pour le mieux attacher à sa vie solitaire, un ange semblait lui révéler les abîmes du monde moral et les chocs terribles des civilisations. Il sentait que son âme, bientôt déchirée à travers ces océans d'hommes, périrait, brisée comme une perle, qui, à l'entrée royale d'une princesse, tombe de la coiffure dans la boue d'une rue. En 1617, 20 et quelques années après l'horrible nuit pendant laquelle Étienne fut mis au monde, le duc d'Hérouville, alors âgé de 76 ans, vieux, cassé, presque mort, était assis au coucher du soleil dans un immense fauteuil, devant la fenêtre ogive de sa chambre à coucher, à la place d'où jadis la comtesse avait si vainement réclamé, par les sons du corps perdu dans les airs, le secours des hommes et du ciel. Vous eussiez dit d'un véritable débris de tombeau. Sa figure énergique, dépouillée de son aspect sinistre par la souffrance et par l'âge, avait une couleur blafarde en rapport avec les longues mèches de cheveux blancs qui tombaient autour de sa tête chauve, dont le crâne jaune semblait débile. La guerre et le fanatisme brillaient encore dans ses yeux jaunes, quoique tempérés par un sentiment religieux. La dévotion jetait une teinte monastique sur ce visage, jadis si dur et marqué maintenant de teintes qui en adoucissaient l'expression. Les reflets du couchant coloraient par une douce lueur rouge cette tête encore vigoureuse. Le corps affaibli, enveloppé de vêtements bruns, achevait, par sa pose lourde, par la privation de tout mouvement, de peindre l'existence monotone, le repos terrible de cet homme, autrefois si entreprenant, si haineux, si actif. « Assez !» dit-il à son chapelain. Ce vieillard vénérable lisait l'Évangile en se tenant debout devant le maître dans une attitude respectueuse. Le duc, semblable à ces vieux lions de ménagerie qui arrivent à une décrépitude encore pleine de majesté, se tourna vers un autre homme en cheveux blancs et lui tendit un bras décharné, couvert de poils rares, encore nerveux, mais sans vigueur. « À vous, rebouteur !» s'écria-t-il. « Voyez où j'en suis aujourd'hui. »« Tout va bien, monseigneur, et la fièvre a cessé. Vous vivrez encore de longues années. » « Je voudrais voir Maximilien ici, » reprit le duc en laissant échapper un sourire d'aise. « Ce brave enfant! Il commande maintenant une compagnie d'arquebusiers chez le roi. Le maréchal d'Ancre a eu soin de mon gars, et notre gracieuse reine Marie pense à le bien apparenter, maintenant qu'il a été créé duc de Nivron. Mon nom sera donc dignement continué. Le gars a fait des prodiges de valeur à l'attaque. » En ce moment, Bertrand arriva, tenant une lettre à la main. « Qu'est-ceci ? » dit vivement le vieux seigneur. « Une dépêche apportée par un courrier que vous envoie le roi, » répondit l'écuyer. « Le roi et non la reine-mère ? » s'écria le duc. « Que se passe-t-il donc ? Les Huguenots reprendraient-ils les armes ? Tête Dieu pleine de reliques !» reprit le duc en se dressant et jetant un regard étincelant sur les trois vieillards. J'armerai encore mes soldats, et, avec Maximilien à mes côtés, la Normandie... « Asseyez-vous, mon bon seigneur !» dit le rebouteur, inquiet de voir le duc se livrant à une bravade dangereuse chez un convalescent. « Lisez, maître Corbineau !» dit le vieillard en tendant la dépêche à son confesseur. Ces quatre personnages formaient un tableau plein d'enseignements pour la vie humaine. L'écuyer, le prêtre et le médecin, blanchis par les années, tous trois debout devant leur maître, assis dans son fauteuil, et ne se jetant l'un à l'autre que de pâles regards, traduisaient chacun l'une des idées qui finissent par s'emparer de l'homme au bord de la tombe. Fortement éclairés par un dernier rayon du soleil couchant, ces hommes silencieux composaient un tableau sublime de mélancolie et fertile en contraste. Cette chambre sombre et solennelle, où rien n'était changé depuis 25 années, encadrait bien cette page poétique, pleine de passions éteintes, attristée par la mort, remplie par la religion. Le maréchal d'Ancre a été tué sur le pont du Louvre par ordre du roi, puis... Oh mon Dieu ! Achevé ! Cria le seigneur. Monseigneur, le duc de Nivron... « Eh bien, est mort !» Le duc pencha la tête sur sa poitrine, fit un grand soupir et resta muet. À ce mot, à ce soupir, les trois vieillards se regardèrent. il leur sembla que l'illustre et opulente maison d'Hérouville disparaissait devant eux comme un navire qui sombre. « Le maître d'en haut, reprit le duc en lançant un terrible regard sur le ciel, se montre bien ingrat envers moi. Il ne se souvient pas des hauts faits que j'ai commis pour sa sainte cause. » « Dieu se venge, dit le prêtre d'une voix grave. « Mettez cet homme au cachot, s'écria le seigneur. « Vous pouvez me faire taire plus facilement que vous n'apaiserez votre conscience. » Le duc d'Hérouville redevint pensif. « Ma maison périr ? Mon nom s'éteindre ? Je veux me marier, avoir un fils, » dit-il après une longue pause. Quelque effrayante que fût l'expression du désespoir peint sur la face du duc d'Hérouville, le rebouteur ne put s'empêcher de sourire. En ce moment, un chant frais comme l'air du soir, aussi pur que le ciel, simple autant que la couleur de l'océan, domina le murmure de la mer et s'éleva pour charmer la nature. La mélancolie de cette voix, la mélodie des paroles, répandirent dans l'âme comme un parfum. L'harmonie montée par nuages remplissait les airs, versait du baume sur toute douleur, ou plutôt, elle les consolait en les exprimant. La voix s'unissait au bruissement de l'onde avec une si rare perfection qu'elle semblait sortir du sein des flots. Ce chant fut plus doux pour ces vieillards que ne l'aurait été la plus tendre parole d'amour pour une jeune fille. Il apportait tant de religieuses espérances qu'il résonna dans le cœur comme une voix partie du ciel. « Qu'est ceci ? » demanda le duc. « Le petit rossignol chante, » dit Bertrand. « Tout n'est pas perdu, ni pour lui, ni pour vous. » « Qu'appelez-vous un rossignol ?»« C'est le nom que nous avons donné au fils aîné de mon seigneur, » répondit Bertrand. « Mon fils ? » s'écria le vieillard. « J'ai donc un fils ? Enfin, quelque chose qui porte mon nom et qui peut le perpétuer ?» Il se dressa sur ses pieds et se mit à marcher dans sa chambre d'un pas tour à tour lent et précipité. Puis il fit un geste de commandement et renvoya ses gens, à l'exception du prêtre. Le lendemain matin, le duc, appuyé sur son vieil écuyer, allait le long de la grève, à travers les rochers, cherchant le fils que jadis il avait maudit. Il l'aperçut de loin, tapi dans une crevasse de granit, nonchalamment étendu au soleil, la tête posée sur une touffe d'herbe fine, les pieds gracieusement ramassés sous le corps. Étienne ressemblait à une hirondelle en repos. Aussitôt que le grand vieillard se montra sur le bord de la mer et que le bruit de ses pas assourdis par le sable résonna faiblement en se mêlant à la voix des flots, Étienne tourna la tête, jeta un cri d'oiseau surpris et disparut dans le granit même, comme une souris qui rentre si lestement dans son trou que l'on finit par douter de l'avoir aperçu. « Hé, tête Dieu pleine de reliques, où s'est-il donc fourré ?» s'écria le seigneur en arrivant au rocher sur lequel son fils était accroupi. « Il est là !» dit Bertrand en montrant une fente étroite dont les bords avaient été polis, usés par l'assaut répété des hautes marées. « Étienne, mon fils bien-aimé !» s'écria le vieillard. L'enfant maudit ne répondit pas. Pendant une partie de la matinée, le vieux duc supplia, menaça, gronda, implora tour à tour, sans pouvoir obtenir de réponse. Parfois il se taisait, appliquait l'oreille à la crevasse, et tout ce que son ouïe faible lui permettait d'entendre était le sourd battement du cœur d'Étienne, dont les pulsations précipitées retentissaient sous la voûte sonore. « Il vit au moins celui-là !» dit le vieillard d'un son de voix déchirant. Au milieu du jour, le père, au désespoir, eut recours à la prière. « Étienne, lui disait-il, mon cher Étienne, Dieu m'a puni de t'avoir méconnu. Il m'a privé de ton frère. Aujourd'hui, tu es mon seul et unique enfant. Je t'aime plus que je m'aime moi-même. J'ai reconnu mon erreur. Je sais que tu as véritablement dans tes veines mon sang ou celui de ta mère, dont le malheur a été mon ouvrage. Viens, je tâcherai de te faire oublier mes torts en te chérissant pour tout ce que j'ai perdu. Étienne, tu es déjà duc de Nivron, et tu seras après moi duc d'Hérouville, pair de France, chevalier des ordres et de la Toison d'or, capitaine de 100 hommes d'armes, grand bailli de Bessin, gouverneur de Normandie pour le roi, seigneur de 27 domaines où se comptent 69 clochers, marquis de Saint-Sever. Tu auras pour femme la fille d'un prince, tu seras le chef de la maison d'Hérouville. Veux-tu donc me faire mourir de chagrin? Viens, viens, ou je reste agenouillée là, devant ta retraite, jusqu'à ce que je t'aie vue. Ton vieux père te prie et s'humilie devant son enfant comme si c'était Dieu lui-même. » L'enfant maudit n'entendit pas ce langage hérissé d'idées sociales, de vanité qu'il ne comprenait point, et retrouvait dans son âme des impressions de terreur invincibles. Il resta muet, livré à d'affreuses angoisses. Sur le soir, le vieux seigneur, après avoir épuisé toutes les formules de langage, toutes les ressources de la prière et les accents du repentir, fut frappé d'une sorte de contrition religieuse. Il s'agenouilla sur le sable et fit ce vœu. « Je jure d'élever une chapelle à Saint-Jean et à Saint-Étienne, patrons de ma femme et de mon fils, d'y fonder 100 messes en l'honneur de la Vierge, si Dieu et les saints me rendent l'affection de Monsieur le duc de Nivron, mon fils, ici présent. » Il demeura dans une humilité profonde, agenouillé, les mains jointes, et pria. Mais ne voyant point paraître son enfant, l'espoir de son nom, de grosses larmes sortirent de ses yeux si longtemps secs et roulèrent le long de ses joues flétries. En ce moment, Étienne, qui n'entendait plus rien, se coula sur le bord de sa grotte comme une jeune couleuvre affamée de soleil. Il vit les larmes de ce vieillard abattu, reconnut le langage de la douleur, saisit la main de son père et l'embrassa en disant d'une voix d'ange « Oh, ma mère, pardonne !» Dans la fièvre du bonheur, le gouverneur de Normandie emporta dans ses bras son chétif héritier qui tremblait comme une fille enlevée. Et le sentant palpiter, il s'efforça de le rassurer en le baisant avec les précautions qu'il aurait prises pour manier une fleur. Il trouva pour lui de douces paroles qu'il n'avait jamais su prononcer. « Vrai Dieu, tu ressembles à ma pauvre Jeanne, cher enfant, » lui disait-il. « Instruis-moi de tout ce qui te plaira. Je te donnerai tout ce que tu désireras. Sois bien fort, porte-toi bien. Je t'apprendrai à monter à cheval sur une jument douce et gentille, comme tu es doux et gentil. Rien ne te contrariera. Tête Dieu pleine de reliques, autour de toi, tout pliera comme des roseaux sous le vent. Je vais te donner ici un pouvoir sans bornes. Moi-même, je t'obéirai comme au Dieu de la famille. » Le père entra bientôt avec son fils dans la chambre seigneuriale où s'était écoulée la triste vie de la mère. Étienne alla soudain s'appuyer près de cette croisée où il avait commencé de vivre, d'où sa mère lui faisait des signaux pour lui annoncer le départ de son persécuteur, qui maintenant, sans qu'il sût encore pourquoi, devenait son esclave, et ressemblait à ces gigantesques créatures que le pouvoir d'une fée mettait aux ordres d'un jeune prince. Cette fée était la féodalité. En revoyant la chambre mélancolique où ses yeux s'étaient habitués à contempler l'océan, des pleurs vinrent aux yeux d'Étienne. Les souvenirs de son long malheur, mêlés aux mélodieuses souvenances des plaisirs qu'il avait goûtés dans le seul amour qui lui fut permis, l'amour maternel, tout fondit à la fois sur son cœur et y développa comme un poème à la fois délicieux et terrible. Les émotions de cet enfant, habitué à vivre dans les contemplations de l'extase, comme d'autres se livrent aux agitations du monde, ne ressemblaient à aucune des émotions habituelles aux hommes. « Vivra-t-il ? dit le vieillard, étonné de la faiblesse de son héritier, sur lequel il se surprit à retenir son souffle. « Je ne pourrai vivre qu'ici, » répondit simplement Étienne, qui l'avait entendu. « Eh bien, cette jambe sera la tienne, mon enfant. »« Qu'y a-t-il ? » dit le jeune d'Hérouville, en entendant des commensaux du château qui arrivaient dans la salle des gardes, où le duc les avait convoqués tous pour leur présenter son fils, en ne doutant pas du succès. « Viens, » lui répondit son père en le prenant par la main et l'amenant dans la grande salle. À cette époque, un duc et pair, possessionné comme l'était le duc d'Hérouville, ayant ses charges et ses gouvernements, menait en France le train d'un prince. Les cadets de famille ne répugnaient pas à le servir. Il avait une maison et des officiers. Le premier lieutenant de sa compagnie d'ordonnance était chez lui ce que sont aujourd'hui les aides de camp chez un maréchal. Quelques années plus tard, le cardinal de Richelieu eut des gardes du corps. Plusieurs princes alliés à la maison royale, les Guise, les Condé, les Nevers, les Vendôme, avaient des pages pris parmi les enfants des meilleures maisons. Dernière coutume de la chevalerie éteinte. Sa fortune et l'ancienneté de sa race normande, indiquée par son nom, Erus Villa, maison du chef, avait permis au duc d'Hérouville d'imiter la magnificence des gens qui lui étaient inférieurs, tels que les d'Épernon, les Luynes, les Balagny, les Dos, les Amés, regardés en ce temps comme des parvenus, et qui néanmoins vivaient en prince. Ce fut donc un spectacle imposant pour le pauvre Étienne que de voir l'assemblée des gens attachés au service de son père. Le duc monta sur une chaise, placée sous un de ces soliums ou dais en bois sculpté, garni d'une estrade élevée de quelques marches, d'où, dans quelques provinces, certains seigneurs rendaient encore des arrêts dans leurs châtellenies, rares vestiges de féodalité qui disparurent sous le règne de Richelieu. Ces espèces de trônes, semblables aux bancs d'œuvre dans les églises, sont devenus des objets de curiosité. Quand Étienne se trouva là, près de son vieux père, il frissonna de se voir le point de mire de tous les yeux. « Ne tremble pas !» lui dit le duc en abaissant sa tête chauve jusqu'à l'oreille de son fils. « Car tout ça, c'est nos gens !» À travers les ténèbres à demi lumineuses produites par le soleil couchant, dont les rayons rougissaient les croisées de cette salle, Étienne apercevait le bailli, les capitaines et les lieutenants en armes, accompagnés de quelques soldats, les écuyers, le chapelain, les secrétaires, le médecin, le majordome, les huissiers, l'intendant, les piqueurs, les gardes-chasse, toute la livrée et les valets. Quoique ce monde se tînt dans une attitude respectueuse, commandée par la terreur qu'inspirait le vieillard aux gens les plus considérables qui vivaient sous son commandement et dans sa province, il se faisait un bruit sourd, produit par une curieuse attente. Ce bruit serra le cœur d'Étienne, qui pour la première fois éprouvait l'influence de la lourde atmosphère d'une salle où respirait une assemblée nombreuse. Ses sens, habitués à l'air pur et sain de la mer, furent offensés avec une promptitude qui indiquait la perfection de ses organes. Une horrible palpitation, due à quelque vice dans l'organisation de son cœur, l'agita de ses coups précipités, quand son père, obligé de se montrer comme un vieux lion majestueux, prononça d'une voix solennelle le petit discours suivant. « Mes amis, voici mon fils Étienne, mon premier-né, mon héritier présomptif, le duc de Nivron, à qui le roi confirmera sans doute les charges de défunt son frère. Je vous le présente afin que vous le reconnaissiez et que vous lui obéissiez comme à moi-même. Je vous préviens que si l'un de vous, ou si quelqu'un dans la province dont j'ai le gouvernement, déplaisait au jeune duc ou le heurtait en quoi que ce soit, il vaudrait mieux, cela étant, et moi le sachant, que ce quelqu'un ne fût jamais sorti du ventre de sa mère. Vous avez entendu ? Retournez tous à vos affaires et que Dieu vous conduise. Les obsèques de Maximilien d'Hérouville se feront ici, lorsque son corps y sera rapporté. La maison prendra le deuil dans 8 jours. Plus tard, nous fêterons l'avènement de mon fils Étienne.
Vive Monseigneur! Vive les d'Hérouville!
Fut crié de manière à faire mugir le château. Les valets apportèrent des flambeaux pour éclairer la salle. Ce hourra, cette lumière et les sensations que donna à Étienne le discours de son père, jointes à celles qu'il avait éprouvées déjà, lui causèrent une défaillance complète. Il tomba sur le fauteuil en laissant sa main de femme dans la large main de son père. Quand le duc, qui avait fait signe au lieutenant de sa compagnie d'approcher, lui dit « Eh bien, baron d'Artagnan, je suis heureux de pouvoir réparer ma perte. Venez voir mon fils. » Il sentit dans sa main une main froide, regarda le nouveau duc de Nivron, le crut mort, et jeta un cri de terreur qui épouvanta l'assemblée. Beauvouloir ouvrit l'estrade, prit le jeune homme dans ses bras et l'emmena en disant à son maître « Vous l'avez tué en ne le préparant pas à cette cérémonie. »
« Il ne pourra donc pas avoir d'enfant s'il en est ainsi !»
s'écria le duc, qui suivit Beauvouloir dans la chambre seigneuriale où le médecin alla coucher le jeune héritier.
« Eh bien, maître !»
demanda le père avec anxiété.
« Ce ne sera rien !» répondit le vieux serviteur en montrant à son seigneur Étienne ranimé par un cordial dont il lui avait donné quelques gouttes sur un morceau de sucre.
Nouvelle et précieuse substance que les apothicaires vendaient au poids de l'or.
« Prends, vieux coquin !» dit le vieux seigneur en tendant sa bourse à Beauvouloir, « et soigne-le comme le fils d'un roi. S'il mourait par ta faute, je te brûlerai moi-même sur un gril. »
« Si vous continuez à vous montrer violent, le duc de Nivron mourra par votre fête !» dit brutalement le médecin à son maître.
« Laissez-le, il va s'endormir. »«
Bonsoir, mon amour, » dit le vieillard en baisant son fils au front.
« Bonsoir, mon père, » reprit le jeune homme dont la voix fit tressaillir le duc qui, pour la première fois, s'entendait donner par Étienne le nom de père.
Le duc prit Beauvouloir par le bras, l'emmena dans la salle voisine et le poussa dans l'embrasure d'une croisée en lui disant «
Ah, ça, vieux coquin, à nous deux !»
Ce mot, qui était la gracieuseté favorite du duc, fit sourire le médecin, qui depuis longtemps avait quitté ses rebouteries.
« Tu sais, » dit le duc en continuant, « que je ne te veux pas de mal. Tu as 2 fois accouché ma pauvre Jeanne. Tu as guéri mon fils Maximilien d'une maladie. Enfin, tu fais partie de ma maison. Pauvre enfant, je le vengerai. Je me charge de celui qui me l'a tué. Tout l'avenir de la maison d'Hérouville est donc entre tes mains. Je veux marier cet enfant-là, sans tarder. Toi seul peux savoir s'il y a chance de trouver en cet avorton de l'étoffe à faire des d'Hérouville. Tu m'entends? Que crois-tu? »
Sa vie au bord de la mer a été si chaste et si pure que la nature est plus drue chez lui qu'elle ne l'aurait été s'il eût vécu dans votre monde. Mais un corps si délicat est le très humble serviteur de l'âme. Monseigneur Étienne doit choisir lui-même sa femme, car tout en lui sera l'ouvrage de la nature, et non celui de vos vouloirs. Il aimera naïvement et fera par désir de cœur ce que vous souhaitez qu'il fasse pour votre nom. Donnez à votre fils une grande dame qui soit comme une Aquenée, il ira se cacher dans ses rochers. Bien plus, si quelque vive terreur le tuerait à coup sûr, je crois qu'un bonheur trop subit le foudroierait également. Pour éviter ce malheur, m'est avis de laisser Étienne s'engager de lui-même et à son aise dans la voie des amours. Écoutez, monseigneur, quoique vous soyez un grand et puissant prince, vous n'entendez rien à ces sortes de choses. Accordez-moi votre confiance entière, sans borne, et vous aurez un petit-fils.
Si j'obtiens un petit-fils par quelque sortilège que ce soit, je te fais anoblir.
Oui, quoique ce soit difficile, de vieux coquin, tu deviendras un galant homme. Tu seras Beauvouloir, baron de Forcalquier.
emploie le vert et le sec, la magie blanche et noire, les neuvaines à l'église et les rendez-vous au sabbat. Pourvu que j'aie une lignée mâle, tout sera bien.
Je sais, dit Beau Vouloir, un chapitre de sorcier capable de tout gâter.
Ce sabbat n'est autre que vous-même, monseigneur. Je vous connais. Vous désirez une lignée à tout prix aujourd'hui. Demain, vous voudrez déterminer les conditions dans lesquelles doit venir cette lignée, et vous tourmenterez votre fils.
Dieu m'en garde.
Eh bien, allez à la cour, où la mort du maréchal et l'émancipation du roi doit avoir mis tout sang dessus dessous, et où vous avez affaire, ne fût-ce que pour vous faire donner le bâton de maréchal qu'on vous a promis. Laissez-moi gouverner monseigneur Étienne, mais engagez-moi votre parole de gentilhomme de m'approuver en quoi que je fasse. »
Le duc frappa dans la main du vieillard en signe d'une entière adhésion et se retira dans son appartement.
Quand les jours d'un haut et puissant seigneur sont comptés, le médecin est un personnage important au logis. Aussi ne faut-il pas s'étonner de voir un ancien rebouteur devenu si familier avec le duc d'Hérouville. À part les liens illégitimes par lesquels son mariage l'avait rattaché à cette grande maison et qui militait en sa faveur, le duc avait si souvent éprouvé le grand sens du savant qu'il en avait fait l'un de ses conseillers favoris. Beau Vouloir était le coictier de ce Louis XI. Mais de quelque prix que fût sa science, le médecin n'avait pas, sur le gouverneur de Normandie, en qui respirait toujours la férocité des guerres religieuses, autant d'influence que la féodalité. Aussi, le serviteur avait-il deviné que les préjugés du noble nuisaient aux vœux du père. En grand médecin qu'il était, Beau Vouloir comprit que chez un être délicatement organisé comme Étienne, le mariage devait être une lente et douce inspiration qui lui communiqua de nouvelles forces en l'animant du feu de l'amour. Comme il l'avait dit, imposer une femme à Étienne, c'était le tuer. On devait éviter surtout que ce jeune solitaire s'effrayât du mariage dont il ne savait rien, et qu'il connût le but dont se préoccupait son père. Ce poète inconnu n'admettait que la noble et belle passion de Pétrarque pour Laure, de Dante pour Béatrix. Comme sa mère, il était tout amour pur et tout âme. On devait lui donner l'occasion d'aimer, attendre l'événement et non le commander. Un ordre aurait tari en lui les sources de la vie. Maître Antoine Beau Vouloir était père. Il avait une fille élevée dans des conditions qui en faisaient la femme d'Étienne. Il était si difficile de prévoir les événements qui rendraient un enfant destiné par son père au cardinalat, l'héritier présomptif de la maison d'Hérouville, que Beau Vouloir n'avait jamais remarqué la ressemblance des destinées d'Étienne et de Gabriel. Ce fut une idée subite, inspirée par son dévouement à ces deux êtres plutôt que par son ambition. Malgré son habileté, sa femme était morte en couches en lui donnant une fille, dont la santé fut si faible qu'il pensa que la mère avait dû léguer à son fruit des germes de mort. Beau Vouloir aima sa Gabrielle comme tous les vieillards aiment leur unique enfant. Sa science et ses soins constants prêtèrent une vie factice à cette frêle créature, qu'il cultiva comme un fleuriste cultive une plante étrangère. Il l'avait soustraite à tous les regards dans son domaine de Fort Calier, où elle fut protégée contre les malheurs du temps par la bienveillance générale qui s'était attachée à un homme auquel chacun devait un cierge, et dont le pouvoir scientifique inspirait une sorte de terreur respectueuse. En s'attachant à la maison d'Hérouville, il avait augmenté les immunités dont il jouissait dans la province, et déjouer les poursuites de ses ennemis par sa position formidable auprès du gouverneur. Mais il s'était bien gardé, en venant au château, d'y amener la fleur qu'il tenait enfouie à Fort Calier, domaine plus important par les terres qui en dépendaient que par l'habitation, et sur lequel il comptait pour trouver à sa fille un établissement conforme à ses vues. en promettant au vieux duc une postérité, en lui demandant sa parole d'approuver sa conduite, il pensa soudain à Gabrielle, à cette douce enfant dont la mère avait été oubliée par le duc, comme il avait oublié son fils Étienne. Il attendit le départ de son maître avant de mettre son plan à exécution, en prévoyant que si le duc en avait connaissance, les énormes difficultés qui pourraient être levées à la faveur d'un résultat favorable seraient dès l'abord insurmontables. La maison de Maître Beauvouloir était exposée au midi, sur le penchant d'une de ces douces collines qui cerclent les vallées de Normandie. Un bois épais l'enveloppait au nord. Des murs élevés et des haies normandes à fossés profonds y faisaient une impénétrable enceinte. Le jardin descendait, en pente douce, jusqu'à la rivière qui arrosait les herbages de la vallée et à laquelle le haut talus d'une double haie formait en cet endroit un quai naturel. Dans cette haie tournait une secrète allée, dessinée par les sinuosités des eaux, et que les saules, les hêtres, les chênes rendaient touffus comme un sentier de forêt. Depuis la maison jusqu'à ce rempart, s'étendaient les masses de la verdure particulière à ce riche pays, belles nappes ombragées par une lisière d'arbres rares, dont les nuances composaient une tapisserie heureusement colorée. Là, les teintes argentées d'un pin se détachaient de dessus le vert foncé de quelques zones. Ici, devant un groupe de vieux chênes, un svelte peuplier élançait sa palme, toujours agitée. Plus loin, des saules pleureurs penchaient leurs feuilles pâles entre de gros noyers à tête ronde. Cette lisière permettait de descendre, à toute heure, de la maison vers la haie, sans avoir à craindre les rayons du soleil. La façade, devant laquelle se déroulait le ruban jaune d'une terrasse sablée, était ombrée par une galerie de bois autour de laquelle s'entortillaient des plantes grimpantes, qui, dans le mois de mai, jetaient leurs fleurs jusqu'aux croisées du premier étage. Sans être vaste, ce jardin semblait immense par la manière dont il était percé, et ses points de vue, habilement ménagés dans les hauteurs du terrain, se mariaient à ceux de la vallée où l'œil se promenait librement. Selon les instincts de sa pensée, Gabrielle pouvait ou rentrer dans la solitude d'un étroit espace sans y apercevoir autre chose qu'un épais gazon et le bleu du ciel entre les cimes des arbres, ou planer sur les plus riches perspectives en suivant les nuances des lignes vertes, depuis leur premier plan si éclatant jusqu'au fond pur de l'horizon où elle se perdait, tantôt dans l'océan bleu de l'air, tantôt dans les montagnes de nuages qui y flottaient. Soignée par sa grand-mère, servie par sa nourrice, Gabrielle Beauvouloir ne sortait de cette modeste maison que pour se rendre à la paroisse, dont le clocher se voyait au faîte de la colline, et où l'accompagnait toujours son aïeul, sa nourrice et le valet de son père. Elle était donc arrivée à l'âge de 17 ans, dans la suave ignorance que la rareté des livres permettait à une fille de conserver sans qu'elle parût extraordinaire en un temps où les femmes instruites étaient de rares phénomènes. Cette maison avait été comme un couvent, plus la liberté, moins la prière ordonnée, et où elle avait vécu sous les yeux d'une vieille femme pieuse, sous la protection de son père, le seul homme qu'elle eût jamais vu. Cette solitude profonde, exigée dès sa naissance par la faiblesse apparente de sa constitution, avait été soigneusement entretenue par Beauvouloir. À mesure que Gabrielle grandissait, les soins qui lui étaient prodigués, l'influence d'un air pur, avaient à la vérité fortifié sa jeunesse frêle. Néanmoins, le savant médecin ne pouvait se tromper en voyant les teintes nacrées qui entouraient les yeux de sa fille s'attendrir, se brunir, s'enflammer suivant ses émotions. La débilité du corps et la force de l'âme se signaient là par des indices que sa longue pratique lui permettait de reconnaître. Puis, la céleste beauté de Gabrielle lui avait fait redouter les entreprises si communes par un temps de violence et de sédition. Mille raisons avaient donc conseillé à ce bon père d'épaissir l'ombre et d'agrandir la solitude autour de sa fille, dont l'excessive sensibilité l'effrayait. Une passion, un rapt, un assaut quelconque la lui aurait blessée à mort. Quoique sa fille encourût rarement des reproches, un mot de réprimande la bouleversait. Elle le gardait au fond du cœur où il pénétrait et engendrait une mélancolie méditative. Elle allait pleurer et pleurait longtemps. Chez Gabriel, l'éducation morale n'avait donc pas voulu moins de soins que l'éducation physique. Le vieux médecin avait dû renoncer à conter à sa fille les histoires qui charment les enfants. Elle en recevait de trop vives impressions. Aussi, cet homme, qu'une longue pratique avait rendu si savant, s'était-il empressé de développer le corps de sa fille afin d'amortir les coups qui portaient une âme aussi vigoureuse. Comme Gabrielle était toute sa vie, son amour, sa seule héritière, il n'avait jamais hésité à se procurer les choses dont le concours devait amener le résultat souhaité. Il écarta soigneusement les livres, les tableaux, la musique, toutes les créations des arts qui pouvaient réveiller la pensée. Aidé par sa mère, il intéressait Gabrielle à des ouvrages manuels, la tapisserie, la couture, la dentelle, la culture des fleurs, les soins du ménage, la récolte des fruits, enfin les plus matérielles occupations de la vie étaient données en pâture à l'esprit de cette charmante enfant. Beau vouloir lui apporter de beaux rouets, des bahuts bien travaillés, de riches tapis, de la poterie de Bernard de Palissy, des tables, des prie-dieu, des chaises sculptées et garnies d'étoffes précieuses, du linge ouvré, des bijoux. Avec l'instinct que donne la paternité, le vieillard choisissait toujours ses cadeaux parmi les œuvres dont les ornements appartenaient à ce genre fantasque nommé arabesque, et qui, ne parlant ni au sens ni à l'âme, s'adresse seulement à l'esprit par les créations de la fantaisie pure. Aussi, chose étrange, la vie que la haine d'un père avait commandée à Étienne d'Hérouville, l'amour paternel avait dit à beau vouloir de l'imposer à Gabriel. Chez l'un et l'autre de ces deux enfants, l'âme devait tuer le corps. Et sans une profonde solitude, ordonnée par le hasard chez l'un, voulue par la science chez l'autre, tous deux pouvaient succomber, celui-ci à la terreur, celle-là sous le poids d'une trop vive émotion d'amour. Mais, hélas, au lieu de naître dans un pays de landes et de bruyères, au sein d'une nature sèche aux formes arrêtées et dures, que tous les grands peintres ont donné comme fond à leur vierge, Gabriel vivait au fond d'une grasse et plantureuse vallée. Beau vouloir n'avait pu détruire l'harmonieuse disposition des bosquets naturels, le gracieux agencement des corbeilles de fleurs, la fraîche mollesse du tapis vert, l'amour exprimé par les entrelacements des plantes grimpantes. Ces vivaces poésies avaient leur langage, plutôt entendu que compris de Gabriel, qui se laissait aller à de confuses rêveries sous les ombrages. À travers les idées nuageuses que lui suggéraient ses admirations sous un beau ciel et ses longues études de ce paysage observé dans tous les aspects qui imprimaient les saisons et les variations d'une atmosphère marine où viennent mourir les brumes de l'Angleterre, où commence l'éclarté de la France, il s'élevait dans son esprit une lointaine lumière, une aurore qui perçait les ténèbres dans lesquelles la maintenait son père. Beau vouloir n'avait pas soustrait non plus Gabriel à l'influence de l'amour divin. Elle joignait à l'admiration de la nature l'adoration du Créateur. Elle s'était élancée dans la première voie ouverte aux sentiments féminins. Elle aimait Dieu, elle aimait Jésus, la Vierge et les saints, elle aimait l'Église et ses pompes. Elle était catholique à la manière de sainte Thérèse, qui voyait dans Jésus un infaillible époux, un continuel mariage. Mais Gabriel se livrait à cette passion des âmes fortes avec une simplicité si touchante qu'elle aurait désarmé la séduction la plus brutale par l'enfantine naïveté de son langage. Où cette vie d'innocence conduisait-elle Gabriel ? Comment instruire une intelligence aussi pure que l'eau d'un lac tranquille, qui n'aurait encore réfléchi que l'azur des cieux? Quelles images dessiner sur cette toile blanche? Autour de quel arbre tourner les clochettes de neige épanouies sur ce liseron? Jamais le père ne s'était fait ces questions sans éprouver un frisson intérieur. En ce moment, le bon vieux savant cheminait lentement sur sa mule, comme s'il eût voulu rendre éternelle la route qui menait du château d'Hérouville à Ourscamp, nom du village auprès duquel se trouvait son domaine de Fort-Calier. L'amour infini qu'il portait à sa fille lui avait fait concevoir un si hardi projet. Un seul être au monde pouvait la rendre heureuse, et cet homme était Étienne. Certes, le fils angélique de Jeanne de Saint-Savin et la candide fille de Gertrude Marana étaient deux créations jumelles. Toute autre femme que Gabrielle devait effrayer et tuer l'héritier présomptif de la maison d'Hérouville. De même qu'il semblait à beau vouloir que Gabrielle devait périr par le fait de tout homme de qui les sentiments et les formes extérieures n'auraient pas la virginale délicatesse d'Étienne. Certes, le pauvre médecin n'y avait jamais songé. Le hasard s'était complu à ce rapprochement, et l'ordonnait. Mais, sous le règne de Louis XIII, oser amener le duc d'Hérouville à marier son fils unique à la fille d'un rebouteur normand? Et cependant, de ce mariage seulement pouvait résulter cette lignée que voulait impérieusement le vieux duc. La nature avait destiné ces deux beaux êtres l'un à l'autre. Dieu les avait rapprochés par une incroyable disposition d'événements, tandis que les idées humaines, les lois, mettaient entre eux des abîmes infranchissables. Quoique le vieillard crût voir en ceci le doigt de Dieu, et malgré la parole qu'il avait surprise au duc, il fut saisi par de telles appréhensions, en pensant aux violences de ce caractère indompté, qu'il revint sur ses pas, au moment où, parvenu sur le haut de la colline opposée à celle d'Ourscamp, il aperçut la fumée qui s'élevait de son toit entre les arbres de son enclos. Il fut décidé, par son illégitime parenté, considération qui pouvait influer sur l'esprit de son maître. Puis une fois décidé, Beauvouloir eut confiance dans les hasards de la vie. Il se pourrait que le duc mourût avant le mariage. Et d'ailleurs, il compta sur des exemples. Une paysanne du Dauphiné, Françoise Mignot, venait d'épouser le maréchal de l'hôpital. Le fils du connétable Anne de Montmorency avait épousé Diane, la fille de Henri II, et d'une dame piémontaise nommée Philippe Duc. Pendant cette délibération, où l'amour paternel estimait toutes les probabilités, discutait les bonnes comme les mauvaises chances, et tâchait d'entrevoir l'avenir en empesant les éléments, Gabrielle se promenait dans le jardin où elle choisissait des fleurs pour garnir les vases de l'illustre potier qui fit avec les mailles ce que Benvenuto Cellini avait fait avec les métaux. Gabrielle avait mis ce vase, orné d'animaux en relief, sur une table au milieu de la salle et le remplissait de fleurs pour égayer sa grand-mère et peut-être aussi pour donner une forme à ses propres pensées. Le grand vase de faïence, dite de Limoges, était plein, achevé, posé sur le riche tapis de la table, et Gabrielle disait à sa grand-mère « Regardez donc !» Quand Beauvouloir entra, la fille courut se jeter dans les bras du père. Après les premières effusions de tendresse, Gabrielle voulut que le vieillard admirât le bouquet. Mais après l'avoir regardé, Beauvouloir plongea sur sa fille un regard profond qui la fit rougir. « Il est temps !» se dit-il en comprenant le langage de ces fleurs dont chacune avait été sans doute étudiée, et dans sa forme et dans sa couleur, tant chacune était bien mise à sa place, où elle produisait un effet magique dans le bouquet. Gabrielle resta debout, sans penser à la fleur commencée sur son métier. À l'aspect de sa fille, une larme roula dans les yeux de Beauvouloir, sillonna ses joues, qui contractaient encore difficilement une expression sérieuse, et tomba sur sa chemise, que, selon la mode du temps,
son pourpoint ouvert sur le ventre laissait voir au-dessus de son haut de chausse. Il jeta son feutre, orné d'une vieille plume rouge, pour pouvoir faire avec sa main le tour de sa tête pelée. En contemplant de nouveau sa fille, qui, sous les solives brunes de cette salle tapissée de cuir, ornée de meubles en ébène, de portières en grosses étoffes de soie, parée de sa haute cheminée, et qu'éclairait un jour doux, était encore bien à lui, le pauvre père sentit des larmes dans ses yeux et les essuya. Un père qui aime son enfant voudrait le garder toujours petit. Quant à celui qui peut voir, sans une profonde douleur, sa fille passant sous la domination d'un homme, il ne remonte pas vers les mondes supérieurs, il redescend dans les espèces infimes. « Qu'avez-vous, mon fils ?» dit la vieille en ôtant ses lunettes et cherchant dans l'attitude ordinairement joyeuse du bonhomme le sujet du silence qui la surprenait. Le vieux médecin montra du doigt sa fille à l'aïeul qui hocha la tête par un signe de satisfaction comme pour dire « Elle est bien mignonne !» Qui n'eût pas éprouvé l'émotion de beau vouloir en voyant la jeune fille comme la dessinait l'habillement de l'époque et le jour frais de la Normandie. Gabrielle portait ce corset en pointe par devant et carré par derrière que les peintres italiens ont presque tous donné à leur sainte et leur madone. Cet élégant corselet en velours bleu de ciel, aussi joli que celui d'une demoiselle des eaux, enveloppait le corsage comme une guimpe, en le comprimant de manière à modeler finement les formes qu'il semblait aplatir. Il moulait les épaules, le dos, la taille, avec la netteté d'un dessin fait par le plus habile artiste, et se terminait autour du cou par une oblongue échancrure ornée d'une légère broderie en soie couleur carmélite et qui laissait voir autant de nus qu'il en fallait pour montrer la beauté de la femme. Mais pas assez pour éveiller le désir. Une robe de couleur carmélite, qui continuait le trait des lignes accusées par le corps de velours, tombait jusque sur les pieds, en formant des plis minces et comme aplatis. La taille était si fine que Gabrielle semblait grande. Son bras menu pendait avec l'inertie qu'une pensée profonde imprime à l'attitude. Ainsi posée, elle présentait un modèle vivant des naïfs chefs-d'œuvre de la statuaire, dont le goût existait alors, et qui se recommande à l'admiration par la suavité de ses lignes droites sans roideur et par la fermeté d'un dessin qui n'exclut pas la vie. Jamais profil d'hirondelle n'offrit, en rasant une croisée le soir, des formes plus élégamment coupées. Le visage de Gabrielle était mince, sans être plat. Sur son cou et sur son front couraient des filets bleuâtres qui dessinaient des nuances semblables à celles de l'agate, en montrant la délicatesse d'un teint si transparent qu'on eût cru voir le sang couler dans les veines. Cette blancheur excessive était faiblement teintée de rose aux joues. Cachée sous un petit bonnet de velours bleu brodé de perles, ses cheveux, d'un blond égal, coulaient comme deux ruisseaux d'or le long de ses tempes et se jouaient en anneaux sur ses épaules qu'il ne couvrait pas. La couleur chaude de cette chevelure soyeuse animait la blancheur éclatante du cou et purifiait encore par son reflet les contours du visage déjà si pur. Les yeux, longs et comme pressés entre des paupières grasses, étaient en harmonie avec la finesse du corps et de la tête. Le gris de perles y avait du brillant sans vivacité. La candeur y recouvrait la passion. La ligne du nez eût paru froide comme une lame d'acier, sans deux narines veloutées et roses dont les mouvements semblaient en désaccord avec la chasteté d'un front rêveur, souvent étonné, riant parfois, et toujours d'une auguste sérénité. Enfin, une petite oreille alerte attirait le regard, en montrant sous le bonnet, entre deux touffes de cheveux, la poire d'un rubis dont la couleur se détachait vigoureusement sur le lait du cou. Ce n'était ni la beauté normande où la chair abonde, ni la beauté méridionale où la passion agrandit la matière, ni la beauté française,
toute fugitive, comme ses expressions, ni la beauté du nord, mélancolique et froide. C'était la séraphique et profonde beauté de l'Église catholique, à la fois souple et rigide, sévère et tendre.